Souvenirs, chapitre 9. J'ai visité un campement de bohémiens, établi en face du poste caserne de la Porte Saint-Ouen. Ces sauvages doivent bien rire de cette grande bête de ville qui se dérange pour eux. Il m'a suffi de suivre la foule, tout le faubourg se portait autour de leur tente, et j'ai même eu la honte de voir des gens qui n'avaient pourtant pas l'air tout à fait d'imbéciles arriver en voiture découverte avec des valets de pied en livrée. Quand ce pauvre Paris a une curiosité, il ne la marchande guère. Le cas de ces bohémiens est celui-ci. Ils étaient venus pour rétamer les casseroles et poser des pièces au chaudron du faubourg. Seulement, dès le premier jour, à voir la bande de gamins qui les dévisageaient, ils ont compris à quel genre de ville civilisée ils avaient affaire. Aussi se sont-ils empressés de lâcher les chaudrons et les casseroles. Comprenant qu'on les traitait en ménagerie curieuse, ils ont consenti, avec une bonhomie railleuse, à se montrer pour deux sous. Une palissade entoure le campement. Deux hommes se sont placés à deux ouvertures très étroites, où ils recueillent les offrandes des messieurs et des dames qui veulent visiter le chenil. C'est une poussée, un écrasement. Et il a même fallu mettre là des sergents de ville. Les bohémiens tournent parfois la tête, pour ne pas s'égayer au nez des braves gens qui s'oublient jusqu'à leur jeter des pièces de monnaie blanche. Je me les imagine le soir, comptant la recette, quand le monde n'est plus là. Quelle gorge chaude! Ils ont traversé la France dans les rebuffades des paysans et les méfiances des gardes champêtres. Ils arrivent à Paris, avec la crainte qu'on ne les jette au fond de quelque basse fosse, et ils s'éveillent au milieu de ce rêve doré de tout un peuple de messieurs et de dames en extase devant leurs guenilles. Eux qu'on chasse de ville en ville. Il me semble les voir se dresser sur le talus des fortifications, drapés dans leurs loques, jetant un grand rire de mépris à Paris endormi. La palissade entoure 7 ou 8 tentes, ménageant entre elles une sorte de rue. Des chevaux étiques, petits et nerveux, broutent l'herbe roussie derrière les tentes. Sous des lambeaux de vieilles bâches, on aperçoit les roues basses des voitures. Au-dedans règne une puanteur insupportable de saleté et de misère. Le sol est déjà battu, émietté, purulent. Sur les pointes des palissades, la literie prend l'air. Des paillots, des couvertures déteintes, des matelas carrés où deux familles doivent dormir à l'aise. Tout le déballage de quelque hôpital de lépreux s'échante au soleil. Dans les tentes, dressées à la mode arabe, très hautes et s'ouvrant comme les rideaux d'un ciel de lit, des chiffons s'entassent, des selles, des harnais, un bric-à-brac sans nom, des objets qui n'ont plus ni couleur ni forme, qui dorment là, dans une couche de crasse superbe, chaude de ton et faite pour ravir un peintre. Pourtant, j'ai cru découvrir la cuisine au bout du campement dans une tente plus étroite que les autres. Il y avait là quelques marmites de fer et des trépieds. J'ai même reconnu une assiette. D'ailleurs, pas la moindre apparence de pot-au-feu. Les marmites servent peut-être à préparer la bougie du sabbat. Les hommes sont grands. Fort, la face ronde, les cheveux très longs, bouclés, et d'un noir lisse et huileux. Ils sont vêtus de toutes les défroques ramassées en chemin. Un d'eux se promenait drapé dans un rideau de cretonne à grands ramages jaunes. Un autre avait une veste qui devait provenir de quelque habit noir dont on avait arraché la queue. Plusieurs ont des jupons de femmes. Ils sourient dans leurs longues barbes, claires et soyeuses. Leurs coiffures de prédilection paraissent être des fonds de vieux chapeaux de feutre dont ils ont fait des calottes en coupant les ailes. Les femmes sont également grandes et fortes. Les vieilles, séchées, hideuses avec leur maigreur nue et leurs cheveux dénoués, ressemblent à des sorcières cuites au feu de l'enfer. Parmi les jeunes, Il y en a de très belles sous leur couche de crasse, la peau cuivrée, avec de grands yeux noirs, d'une douceur exquise. Celles-là font les coquettes. Elles ont les cheveux nattés en deux grosses nattes tombantes, rattachées derrière les oreilles, étranglées de place en place par des bouts de chiffon rouge. Dans leurs jupons de couleur, les épaules couvertes d'un châle noué à la ceinture, coiffées d'un mouchoir qui les serre au front, elles ont un grand air de reine barbare, tombée dans la vermine. Et les enfants, tout un troupeau d'enfants, grouillent. J'en ai vu en chemise, avec un gilet d'homme immense qui lui battait les mollets. Il tenait un beau cerf-volant bleu. Un autre, un tout petit, 2 ans ou plus, allait nu, absolument nu, très grave, au milieu des rires bruyants des filles curieuses du quartier. Et il était si sale, le cher petit, si vert et si rouge, qu'on l'aurait pris pour un bronze florentin, une de ces charmantes figures de la Renaissance. Toute la bande reste impassible devant la curiosité bruyante de la foule. Des hommes et des femmes dorment sous les tentes, une mère allaite, le sein nu et noir, comme une gourde brunie par l'usage, un poupon tout jaune qui a l'air d'être en cuivre. D'autres femmes, accroupies, regardent sérieusement ces Parisiens étranges qui furettent dans la saleté. J'ai demandé à une d'elles ce qu'elle pensait de nous. Elle a souri faiblement, sans répondre. Une belle fille d'une 20aine d'années se promène au milieu des badauds. Tente les dames en chapeau et en robe de soie, auxquelles elle offre de dire la bonne aventure. Je l'ai vue opérer. Elle a pris la main d'une jeune femme, la gardant dans la sienne, d'une façon câline, si bien que la main a fini par s'abandonner à elle. Alors, elle a fait entendre qu'il fallait mettre une pièce de monnaie dans la main. Une pièce de 10 sous n'a pas suffi, elle en a voulu 2. Et même, elle parlait de 5 francs. Au bout de quelques secondes, après avoir promis une longue vie, des enfants, beaucoup de bonheur, elle a pris les 2 pièces de 10 sous. S'en est servie pour faire des signes de croix sur le bord du chapeau de la jeune femme et au mot « Amen » les a fait disparaître dans sa poche. Une poche immense où j'ai entrevu des poignées de monnaie blanche. Il est vrai qu'elle vend un talisman. Elle casse entre les dents un petit morceau d'une matière rougeâtre qui ressemble à de l'écorce d'orange séchée. Elle noue ce morceau dans le coin du mouchoir de la personne à laquelle elle vient de dire la bonne aventure, puis elle lui recommande d'ajouter au talisman du pain, du sel et du sucre. Cela doit empêcher toutes les maladies et conjurer le mauvais esprit. Et la diablesse fait son métier avec une gravité étonnante. Si on lui reprend une des pièces de monnaie qu'elle a fait mettre dans la main, elle jure que ses bons souhaits se tourneront en des mots effroyables. C'est naïf, mais le geste et l'accent sont excellents. Dans la petite ville provençale où j'ai grandi, les bohémiens sont tolérés. Mais ils ne soulèvent pas une telle émeute de curiosité. On les accuse de manger les chiens et les chats perdus, ce qui les fait regarder de travers par les bourgeois. Les gens comme il faut tournent la tête quand ils ont à passer dans leur voisinage. Ils arrivent avec leur maison roulante, s'installent dans le coin de quelque terrain abandonné des faubourgs. Certains coins, d'un bout de l'année à l'autre, sont habités par des tribus d'enfants déguenillés, d'hommes et de femmes vautrés au soleil. J'y ai vu des créatures belles à ravir. Nous autres galopins, qui n'avions pas les dégoûts des gens comme il faut, nous allions regarder au fond des voitures où ces gens dorment l'hiver. Et je me souviens qu'un jour, ayant sur le cœur quelques gros chagrins d'écolier, je fis le rêve de monter dans une de ces voitures qui partait, de m'en aller avec ces grandes belles filles dont les yeux noirs me faisaient peur, de m'en aller bien loin, au bout du monde, roulant à jamais le long des routes.